Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer cette séance par l'appel. Je suis là, Monsieur Frey également, Madame Escando aussi, Monsieur Bonafou, je l'ai vu, Madame Perret également, Monsieur Villa toujours là. Madame Vibarel a fait pouvoir, Madame Escande, Monsieur Toureau est également présent, Madame Antoine aussi, Monsieur Crabat, je l'ai vu, ça y est, Madame Raffanel, elle est là, Monsieur Bentajou, il est là, Madame Guillou, je l'ai vu, Monsieur Ruiz aussi, Monsieur Abadi, il n'est pas là, Monsieur Abadi, bon, ah, il m'a donné pouvoir, et oui, c'est la Saint-Valentin. Il est occupé ce soir. Madame Mathia, voilà, elle est là. Madame Motte, elle est là. Christiane, oui. Madame Ré a fait pouvoir à Monsieur Perea qui est présent, ainsi que Madame Tardy, ainsi que Madame Salgas. Monsieur Dominguez, il est là. Monsieur Glomot aussi. Non, Monsieur Glomot, oui, il est là, Monsieur Glomot. Madame Ambria, elle est là. Ça va? Monsieur Hugonnet, tout présent. Madame Merten, elle est là. Donc François, je l'ai dit. Sylvien Vial, je l'ai vu. Madame Abelli aussi. Madame Auger-Comment, vous venez d'arriver, bonsoir. Monsieur Dumont, il n'est pas là, Monsieur Dumont? Ah, il t'a excusé, il ne t'a pas fait pouvoir. Bon. Bon, non, mais c'était pour savoir. Ok, Monsieur Nadal est là. Et Monsieur Ivar, ça fait pouvoir à Monsieur Figueras qui est présent, Madame Catanzano aussi, et Madame Varezano également. Voilà, donc le quorum est atteint. Nous pouvons démarrer la séance. L'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 13 décembre dernier appelle-t-il des remarques? Alors, oui, allez-y, Madame Varezano, je vous en prie.
Oui, je suis pas pour cette approbation et ça fera d'ailleurs l'objet d'une.
Mais pourquoi vous n'êtes pas pour cette
question
approbation
orale. Je vous le dirai dans la question orale.
D'accord, mais vous auriez pu le dire là, puisque vous ne l'approuvez pas. C'était une manière
non,
de.
Soyez patient un peu.
Mais je suis ça va très arriver. Patient, Madame.
On est là Rizano. Pour un moment.
D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis juste que là, c'est l'approbation d'un compte rendu. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose qui serait dans le compte rendu, il faut le dire maintenant, c'est ça que je voulais juste savoir.
Non, vous le savez d'ailleurs, vous avez connaissance des questions orales.
Non, mais
que je vais
là,
poser
je parle,
par la
du,
suite,
je parle du contenu du compte oui. rendu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contenu qui ne vous
ce
plaît
pas? Ce n'est pas le contenu en lui-même.
On se serait peut-être trompé
ce
en le
pas
rédigeant.
Ce n'est pas le contenu en lui-même.
Voilà, c'est tout ce que je voulais que vous disiez. Ok, très bien. Donc, Madame Varzano est contre donc, ce compte rendu, même s'il n'y a rien dans le contenu qui ne vous va pas. On est d'accord? Voilà. Monsieur Figueras, le compte rendu, eh bien, disons, suscite.
Oui. Non.
On attaque
alors,
ce soir.
Moi, c'est pas que, bonsoir, pardon.
Oui.
Moi, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'y est pas. C'est-à-dire qu'on demande toujours à ce qu'il y ait nos débats, à nos interventions, ils n'y sont jamais. Donc, ce n'est pas un compte rendu. Si on fait un compte rendu, on doit rendre compte de ce qui.
Mais ça, c'est le compte rendu audio. Mais on ne peut pas, si vous voulez, parce que je n'ai pas un téléscripteur là, excusez-moi, ça coûte cher. Donc on a le compte rendu audio. On va tous faire des économies, monsieur Figueras. Hein,
c'est pas des économies de quelqu'un.
Je ne vais pas prendre quelqu'un qui note tout comme ça. Par contre, on enregistre tous vos propos, donc ça revient au même.
Pas tout à fait, parce que quand les gens vont sur le site, ça serait bien que dans le compte rendu, quand ils le lisent, ils aient quand même la teneur de nos échanges. Quand on fait un PV, une assemblée...
Donc, je vous répète que dans le PV, si vous approuvez ce compte rendu, nous mettrons en annexe que tous les débats seront réécoutables.
C'est déjà un premier pas.
Voilà, dans la bande audio, et on ne peut les fournir que quand vous les avez approuvés. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas balancer des comptes rendus tant qu'on ne les a pas approuvés. Donc forcément, on l'approuve ou pas aujourd'hui. Une fois qu'il est approuvé, eh bien, il est public, parce que c'est normal qu'on rende hommage aux conseillers municipaux quand même. On ne va pas mettre un compte rendu public tant que vous ne l'avez pas approuvé. Parce que si on s'était trompé qu'il faille corriger quelque chose, avant de le mettre en public, on le fait approuver. Et les débats, donc puisque j'ai pas quelqu'un qui tape tout, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un...
Le secrétaire.
Non, mais c'est un greffier, ouais, une sorte de greffier. On a donc la bande audio qui est plus légère à compacter en plus et qui permet d'être entendu, si vous voulez, réécouter vos débats. Voilà, si vous aimez vous réécouter, ce que je respecte, vous pouvez les réécouter.
Que les gens sachent.
Voilà, et que les gens puissent après aller les écouter aussi. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais je crois que, oui, c'est vrai qu'on est, parce qu'on n'est plus filmé, c'est pour ça que vous dites ouais, d'accord. Mais oui, mais bon, écoutez. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte rendu, son contenu, hein, je parle. S'il n'y en a pas, donc il est contre. Donc vous êtes contre, d'accord, ok, qui s'abstient. Il est quand même approuvé. Donc maintenant, je désigne, enfin, je propose M. Frey comme secrétaire de séance. Y en a-t-il d'autres? Y a-t-il des remarques? Non. Donc M. Frey est secrétaire de séance. Voilà, ce sera enregistré. Hein. Bien. Voilà, donc nous passons, Madame Varesano, à vos questions orales.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc le premier point sera sur le non-respect de la loi sur l'information du public. On parlait donc du procès verbal. Vous soumettez à notre approbation le procès-verbal du précédent conseil municipal, en l'occurrence celui du 13 décembre 2022. Cette fois, donc, vous ne pourrez pas écrire qu'il a été voté à l'unanimité. J'ai voté contre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce n'est pas un procès-verbal que vous présentez, mais un compte-rendu de séance qui ne respecte pas le texte de loi que je vous avais rappelé lors de ma précédente question orale. Dans ce compte-rendu de séance, il n'est nullement fait état des arguments et avis émis par l'opposition lors des débats sur les délibérations mises au vote. Ensuite, vous n'avez pas respecté votre engagement. Je vous rappelle mot à mot votre réponse à ma question, et je vous cite, « Concernant la non-mise en ligne du procès-verbal de la séance du 27-9, il s'agissait d'un simple oubli. Il a été mis en ligne depuis. Toutefois, ce procès-verbal était bien entendu mis à disposition du public sur le panneau d'affichage. Concernant la teneur des échanges, en toute transparence, les séances du conseil municipal sont systématiquement enregistrées de manière audio et l'entièreté des débats sera désormais mise à disposition du public sur le site de la ville. Il sera fait mention de cette possibilité dans le procès-verbal. On ne va pas vous filmer, hein, mais peut-être plus tard. » Or, l'enregistrement et le procès-verbal promis font toujours défaut. Quelle excuse allez-vous trouver pour continuer à ne pas respecter la loi, ni votre parole prononcée en séance publique du conseil municipal? C'est une entrave à l'information du public que vous pratiquez sans vergogne, malgré votre déclaration solennelle. J'ai donc voté contre l'approbation de ce qui n'est pas un procès-verbal et qui ne respecte ni la loi ni vos propos lors du Conseil du 13 décembre dernier. Et j'ai donc invité mes collègues qui sont pour l'application de la loi à ne pas approuver ce compte-rendu de séance. Le second point concerne l'affaire juridico-politique du camping de la Tamaricière. Il est temps, Monsieur le maire, d'être plus transparent dans cette affaire où l'intérêt général des Agathois est bafoué. Malgré nos alertes, malgré l'alerte des architectes des bâtiments de France sur des travaux réalisés par le concessionnaire du camping de la Tamaricière, malgré le courrier que vous a adressé le préfet, les travaux d'aménagement se poursuivent sur le site patrimonial remarquable sans que les réglementations en vigueur ni les lois ne soient respectées. Lors du précédent conseil, je vous avais interpellé sur les travaux qui avaient repris depuis le 1er décembre dernier. Je vous rappelais alors la réponse que vous m'aviez écrite à propos de l'ordonnance de référé qui avait, selon vous, pour effet d'interdire de nouveaux travaux. Vous aviez déclaré, je vous cite, « Bien entendu, si d'autres travaux intervenaient en violation de l'ordonnance du juge, je ne manquerai pas d'en faire dresser procès-verbal. » Vous avez dissocié les travaux actuellement en cours pour la construction d'un lagon de l'implantation de chalets qui avaient été réalisés au cours du premier trimestre 2022, au prétexte que la décision sur le fond n'avait pas encore été rendue. Bien qu'il s'agisse d'une zone protégée et qui doit rester libre de toute construction, comme vous l'avez écrit l'architecte des bâtiments de France et le SATO de la DDTM, en toute contradiction, vous avez délivré un permis d'aménager. Libre de toute construction, faut-il vous le rappeler, veut tout simplement dire qu'aucune construction, que ce soit des chalets ou un lagon, ne sont autorisées. L'association Agathée a saisi la justice, qui par deux fois lui a donné raison dans ses actions. Le juge des référés du tribunal administratif avait déjà invalidé le 24 mars 2022 l'autorisation que vous aviez signée au promoteur sur ces travaux. Ce même tribunal a rendu le 9 février son jugement sur le fond. Les conclusions sont sans appel. L'arrêté du 13 janvier 2022, que vous aviez validé tacitement en qualité de maire d'Agde pour la déclaration préalable de travaux de la société Cottage Park Méditerranée, est annulée. Les constructions de ce type de bungalow n'ont pas vocation à être bâties. N'importe quel Kidam Lambda serait immédiatement contraint de démolir sa construction, comme c'est le cas pour tout administré coupable de construction illégale. Vous avez d'autre part omis de signaler à la représentation municipale beaucoup de pièces qui auraient dû vous empêcher de délivrer une quelconque autorisation. Le rapport daté du 6 septembre 2021 du service aménagement du territoire ouest de la direction départementale des territoires et de la mer a été notoirement passé sous silence. Au sujet de cette déclaration préalable pour la construction de 50 habitations légères de loisirs pour une superficie de 1 660 m², la DTTM faisait remarquer que le dossier était incomplet. Il vous était également rappelé qu'un site protégé remarquable n'avait pas vocation à être bâti et que ces constructions n'étaient pas réalisables sur cet espace. Nonobstant que ces dernières sont édifiées en zone inondable et qu'elles sont interdites par le plan de prévention des risques d'inondation. La DDTM concluait ainsi, la construction de 50 HLL n'est pas possible. Comme cela a été rappelé, il ne peut pas y avoir de régularisation pour les constructions qui ont été réalisées sur un site patrimonial remarquable. La logique veut donc que les constructions soient retirées et que les lieux soient remis dans l'état qu'ils étaient avant le 1er janvier 2022. Tout n'est pas en règle, monsieur Détor, contrairement à ce que vous affirmiez tout haut lors du dernier conseil municipal. Non, monsieur Détor, non, tout est hors la loi. Quant aux travaux pour la création d'un lagon qui ont commencé sans aucun permis de construire depuis le 1er décembre dernier, vous m'aviez dit le 13 décembre, lors du dernier conseil, qu'un permis avait déjà été accordé. Il se trouve que ce permis de construire a été accordé 10 jours plus tard, soit le 23 décembre, malgré la ferme opposition de la DDTM. Peu importe que vous ne soyez plus à un mensonge près. Ce qui importe désormais, c'est qu'une nouvelle action en référé a été engagée par l'association Agathée contre la construction de ce lagon. Le juge des référés rendra son ordonnance demain, mercredi 15 février. Si on se fie donc à la position constante du tribunal administratif dans cette affaire, qui est de faire respecter les lois et règlements en vigueur, il est fort probable que le permis de construire sera suspendu. Dans ces conditions, je vous rappelle les textes en vigueur, notamment l'application de l'article 480-2 alinéa 10 du Code de l'urbanisme que vous serez tenu d'appliquer. Monsieur le maire, à aucun moment vous n'avez agi en défenseur de l'intérêt municipal. Le massacre d'un site remarquable se poursuit au bénéfice de l'intérêt privé. Il y a lieu de se poser légitimement des questions. Pourquoi ? Pourquoi privilégier l'intérêt particulier de Cottage Park au détriment du bien public ? Dois-je vous rappeler que vous n'êtes pas propriétaire de ce terrain et que c'est l'intérêt des Agathois que vous devez défendre avant tout autre ? Allez-vous enfin prendre les mesures qui s'imposent pour rendre les lieux accessibles à tous entre le 1er octobre et le 31 mars de l'année suivante et pour les faire remettre dans l'état qu'ils étaient jusqu'au 31 décembre 2021 ? Merci.
Alors, les deux questions n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Je vais commencer par la première, concernant le compte rendu du conseil municipal. Donc la dernière fois, c'était en novembre, vous me dites, il y a en effet eu un compte rendu audio, mais techniquement, nous n'avons pas pu le mettre en ligne, mais il existe. Voilà, donc je suis désolé, quoi qu'il en soit, il existe. Donc celui de ce soir sera mis en ligne demain, voilà, du 13 décembre, puisque je vous le rappelle, on ne peut pas mettre en ligne un compte rendu tant qu'il n'a pas été approuvé par ce conseil municipal, voilà donc. Comme je suis très respectueux de la loi, Madame Varezano, vous savez, j'ai été 10 ans officier de police, donc j'ai fait respecter la loi bien avant vous, et j'ai l'impression ce soir d'être face à une juge et la porte-parole d'Agathée, mais j'y reviendrai. C'est d'ailleurs assez cocasse de votre part. Non, de Agathée surtout. Des Agathois, pas du tout, puisque vous savez, les Agathois, ils nous ont élus, donc on est tous porte-parole des Agathois. Hein. Merci de quand même de ne pas parler que de vous comme représentant des Agathois. Et donc, concernant, si vous voulez, le compte rendu, donc comme nous sommes très respectueux des lois, il sera mis en ligne demain, puisque nous venons de l'approuver ce soir. Voilà. Concernant le camping de la Tamaricière, Madame Varezano. Alors d'abord, je note sur la forme qu'en effet, vous êtes porte-parole de l'association Agathé, c'est votre choix. À l'époque, vous savez, il y a eu Monsieur Muir qui était porte-parole. Je vois que finalement, là, je vois que quand même politiquement, les choses évoluent avec Agathé. Hein, ça passe un peu d'une extrême à l'autre. C'est assez cocasse de noter cela. Je m'aperçois d'ailleurs qu'Agathé s'acharne sur ce camping. Je rappelle, on ne massacre rien du tout, puisque aucun arbre n'a été tombé. Au passage, l'ONF a fait un rapport sur les arbres, et nous aurons à en entretenir quelques-uns, mais ça, j'y reviendrai. En plus, je m'étonne que vous mélangiez et la piscine et les HLL. Je vais y revenir sur les deux points. Le tribunal administratif considère que des HLL sont des constructions. Je ne suis pas d'accord avec eux, c'est mon droit. Et pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux? Je vais vous l'expliquer, Madame Varezano. Parce que c'est une interprétation de la loi. Hein. C'est pas l'application, c'est une interprétation par le juge, rappelons-le. Soyons modérés dans nos propos, Madame Varezano. Et je rappelle que des HLL, il y en avait déjà dans le camping de la Tamaricière, puisqu'ils y sont en place depuis 2008. Et je m'aperçois avec le temps que d'ailleurs à l'époque, ça n'a pas du tout fait sursauter l'association Agathé. Bon, vous n'étiez pas encore leur porte-parole, mais à l'époque, ça ne les a pas fait sursauter. On passe une DSP. D'ailleurs, la plupart des gens de l'opposition nous disent qu'on ne trouvera aucun gestionnaire pour répondre à cette DSP. On le trouve. On lui met en place un cahier des charges où il fallait justement qu'il remplace ces fameux HLL qui étaient vieillissants. Je rappelle au passage, Madame Varezano, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais que tous ces investissements sont dans le but de l'intérêt général de la commune, parce qu'ils sont là justement pour élever le niveau d'accueil de ce camping et d'être dans la modernité de l'accueil des touristes, parce que tous les campings, vous savez, tous les 10-15 ans, bien, tout simplement... Non, mais vous ne répondez pas. Il hein, n'y a pas de réponse, là, hein, Madame Varezano. Bah, non, non, mais...
Il y a deux secondes,
on en reparlera après. D'accord. On en reparlera plus tard. Tous les campings investissent pour se mettre à la page, tout simplement, des clients. Voilà. Si ça vous choque, moi, pas du tout. Et donc, lorsqu'on a lancé cette DSP, je le rappelle, on a exigé des investissements de la part du gestionnaire. Non, non, mais attendez, je termine, Madame Varezano. Sinon, si vous m'occupez toutes les 30 secondes, c'est compliqué de donner mes arguments, puisque vous m'accusez de choses assez graves.
On est hors sujet, monsieur Détor.
Non, on n'est pas hors sujet.
Là, il y a une condamnation, madame, le permis a été annulé.
Madame, je vais y venir, madame.
Sanctionné.
Coupez donc, votre micro,
pas
madame.
Ce n'est pas la peine de parler des investissements.
Je vais y venir, madame, d'accord. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Coupez votre micro et restez calme. Donc, je termine en vous disant que je vais faire appel de la décision du tribunal administratif parce que je ne suis pas d'accord avec eux. C'est mon droit, madame. C'est la loi qui me le permet de faire appel. Et je vous rappelle que sur le plan de la Tamaricière, la piscine a eu un permis en bonne et due forme et que les bâtiments de France ont signé l'autorisation. Donc vous voyez bien l'ambiguïté de tout cela. Et je l'explique à tout le monde. Non, non, madame, vous
c'est
me laissez...
C'est vous qui êtes ambigu.
Vous me laissez parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit, puisque dans la DSP que je vous ai soumis, on avait exigé ces investissements, je le rappelle. Et je rappelle que la piscine a été co-signée par l'architecte des bâtiments de France parce que le bois de la Tamaricière est avant tout un camping depuis 1952, Madame Varezano, que ça vous plaise ou non. Et donc, nous sommes là, nous faisons appel de cette décision, car nous pensons que l'interprétation du juge administratif en première instance n'est pas la bonne, et c'est mon droit. Et donc, je soutiens les investissements en bonne et due forme du gestionnaire du camping, qui est un camping municipal qui a été délégué, de manière à ce qu'on ait demain une excellente clientèle sur le camping de la Tamaricière, qui favorisera de ce fait l'activité commerciale et qui favorisera aussi la fréquentation touristique de ce secteur ô combien important de la commune. Et je l'assume, Madame Varezano. Le pire, c'est que je l'assume. Voilà. Vous assumez rien parce que vous suivez Agathé. Vous êtes là pour essayer, mais je peux comprendre votre stratégie.
Voilà.
Oui, non, mais vous respectez. Moi aussi, je respecte les lois. Et encore une fois, lorsqu'on fait appel à une décision d'un tribunal, je suis désolé, la loi le permet. D'accord ? Donc là-dessus...
Vous auriez dû faire démonter.
Non, je n'ai pas à faire démonter du moment qu'on fait appel. Pas du tout. Pas du tout, parce que les travaux aujourd'hui sont faits. La piscine, vous le dites vous-même, il y a eu un recours, donc un acharnement de l'association Agathé, et c'est leur droit de s'acharner. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. Voilà, parce que lorsque je m'engage avec un délégataire, je vais jusqu'au bout et je l'assume, vous voyez. Et donc, vous irez dire, vous, aux commerçants de la Tamaricière, que vous souhaitez que le camping reste à l'âge de pierre. Hein, et on le leur dira, d'ailleurs, puisque c'est un peu votre souhait, à travers
vos
propos.
C'était pas...
À travers vos propos, j'ai bien compris que vous n'aviez pas envie que le camping de la Tamaricière évolue. Voilà. Donc, chacun sa position, mais assumez-la. D'accord ? Donc là, nous faisons appel de cette décision et nous ferons tout pour que les nouveaux HLL qui remplacent les anciens soient posés dans le camping de la Tamaricière. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà, tout simplement. Parfait. Bien, écoutez, nous passons à l'ordre du jour. Donc, on va demander à Madame Raffanel de prendre la question 1 des admissions en non-valeur.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir. Le receveur municipal nous a transmis un état des dettes irrécouvrables, dont le montant total admis s'élève à 99 864 euros sur le budget de la ville, 199 euros sur le budget annexe du golf et 194 euros sur le budget annexe du centre aquatique. Donc en fait, il s'agit de titres qui ont été émis entre 2011 et 2021, qui sont déclarés irrécouvrables du fait de l'insolvabilité en fait, des débiteurs. Donc je rappelle juste que cette admission en non-valeur ne fait pas obstacle à de poursuites ultérieures si jamais la situation des débiteurs était modifiée. Donc je vous invite du coup à statuer au regard donc, des motifs d'irrécouvrabilité présentés par le receveur municipal de statuer donc, sur ces admissions en non-valeur.
Merci Madame l'adjointe aux finances. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Oui.
Il y a une créance de 43 459 euros sur M. Gianni Cudetta qui s'est accumulée sur plusieurs années de 2017 à 2021 et ce principalement en 2020 et 2021. Quel est l'objet de cette créance ? Les montants identiques sont-ils des échéances non respectées ? Et que signifie personne disparue ? Merci.
Voilà, c'est tout simplement un bar-restaurant qui est à l'entrée de l'île de loisirs que nous avons fait détruire pour appliquer la loi. Et nous avons donc fait un recours devant le tribunal et le tribunal a mis du temps à se prononcer jusqu'à ce que la destruction soit ordonnée. Et donc la personne n'a pas payé pendant les années qui sont recensées dans la délibération.
Elle exploitait pendant ces années ?
Oui, mais parce que nous attendions la décision du tribunal. D'accord. Voilà, on ne peut pas faire de voie de fait pour aller dégager les gens quand ils ne payent pas. Madame Varizano, vous qui êtes commerçante, vous devriez le savoir.
C'est bon à savoir.
Voilà. Mais c'est bon à savoir, oui, mais enfin, c'est bon à savoir pourquoi. Vous voulez, vous comptez ne plus payer vos loyers. Voilà, je veux dire, c'est bon à savoir, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vois quelqu'un qui me filme là, en face. Je vous prierai, madame, de ne pas filmer, s'il vous plaît. Il faut demander une autorisation au maire pour filmer. Voilà, donc je vous prierai de ne pas filmer la séance. Hein, on n'est pas dans un repas de famille, là, d'accord ? Dans une séance du conseil municipal.
On n'a pas le droit de filmer.
Non, madame, on n'a pas le droit de filmer. Il faut demander l'autorisation.
Il y a déjà eu ce cas de...
Mais justement, il y a déjà eu un incident et je vois que vous répétez les incidents. Mais je connais vos méthodes maintenant. Donc, je le dis très calmement à cette dame.
C'est
il est interdit de filmer.
Nos
mais
méthodes...
Pourquoi elle est avec vous, madame ? Elle est avec vous, cette dame ? Mais pourquoi
je ne sais pas de qui vous parlez.
Mais je vois une dame qui filme.
Plus,
voilà. Donc, je dis à cette dame que si elle veut filmer, elle vient me demander l'autorisation avant et je veux voir si elle est journaliste ou pas et dans quel but elle filme. Voilà. Il y a des séances qui sont enregistrées, hein, elles sont parfaitement faites dans les clous, donc on n'est pas sur les réseaux sociaux ici. Voilà, merci. Allez, on passe à la deuxième question. On va voter d'abord la première question. Donc, qui est contre ces admissions non-valeur ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté. On passe à la question numéro 2.
Il s'agit du reversement donc, à la communauté d'agglomération de la taxe d'aménagement qui est perçue sur les zones d'activité communautaire. Donc, au vu de la compétence en matière de développement économique, hein, l'agglo crée et donc aménage des zones d'activité communautaire pour permettre le développement et l'installation de nouvelles entreprises sur notre territoire. Le financement de tous ces coûts d'équipement sont afférents essentiellement à la viabilisation de ces zones et il est entièrement supporté par les budgets de l'agglo. C'est pourquoi il vous est proposé d'instituer que l'on reverse l'intégralité de la taxe d'aménagement que l'on percevait directement à l'agglo pour toutes les autorisations d'urbanisme qui seraient délivrées sur des zones d'activité communautaire.
Merci, Madame Raffanel. Y a-t-il des remarques sur cette question ? S'il n'y en a pas, je la mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, elle est adoptée. La question numéro 3.
Il s'agit effectivement de vous présenter les modalités et les tarifs des visitants du château Laurent. Donc, comme vous le savez, il ouvrira prochainement ses portes au public, et cela après 20 ans de restauration. Donc, c'est un monument exceptionnel et qui doit être évidemment protégé et respecté. Ce que l'on propose, c'est une politique tarifaire qui est calibrée et adaptée à l'ouverture donc, de ce château Laurent qu'il faudra préserver tout au long des visites. Les grands principes à retenir, c'est qu'il y aura des visites obligatoirement par créneau, un petit peu comme si vous alliez au cinéma. Pas de visite libre afin de protéger le lieu. Un accompagnement personnalisé par niveau de visite, donc un niveau animateur avec un discours simple, un niveau médiateur avec un discours enrichi de contexte historique et un niveau guide conférencier avec un discours vraiment très approfondi. Et on aura également des tarifs adaptés dont vous trouverez le détail dans la délibération, donc adaptés aux différents publics avec différentes durées allant de 40 minutes à 1h30 et des tarifs de 9 euros à 25 euros. Je précise également que le parc donc de Belle-Île sera en accès libre et gratuit.
Voilà, et je crois qu'on peut annoncer la date de l'inauguration. Hein, on l'a à peu près calé. Hein, c'est le 23 juin. Voilà. Bien, ça c'est une bonne nouvelle pour Agde, voyez. Ça détend. Hein. Voilà. Mais bon, nous sommes seuls à dire cocorico, mais c'est pas grave. Allez, donc sur cette question, y a-t-il des remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient? Donc c'est adopté. Monsieur Villa, ben voilà, pour les subventions aux associations pour l'exercice 2023.
Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc la présente délibération a pour objet de procéder au vote des principales subventions annuelles versées aux associations locales. Comité des œuvres sociales, la culture, les festivités, l'éducation, l'environnement, la police, la sécurité, la jeunesse et le sport. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer la somme de 908 075 euros pour les associations citées.
Voilà, qui défile à l'écran. On va les laisser toutes défiler. Patriotique. Normalement, c'était M. Crabat, patriotique. On est désolé, M. Crabat. C'est pas grave. Voilà, direction de la jeunesse. Direction des sports. Bon, le sport est bien sûr la partie la plus conséquente avec la culture. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ces attributions de subventions? Ok, bon, mais écoutez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. La question numéro 5, toujours vous, M. Villa.
Oui, donc il s'agit des conventions d'objectifs. Donc chaque année, la ville d'Agde montre son attachement à la vie associative. Elle apporte un soutien financier important. En contrepartie, les associations doivent répondre à des objectifs mis en place par la ville, comme des objectifs en lien avec l'activité de l'association, comme le maintien de leur niveau sportif, des objectifs en lien aux finances du club, où un bilan financier est demandé chaque année, et des objectifs en lien avec l'animation de la ville, comme l'organisation de tournois. Ces conventions d'objectifs s'adressent aux associations qui perçoivent plus de 23 000 euros et se renouvellent tous les 3 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre la commune et l'association et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention d'objectifs.
Il y a des remarques là-dessus? Oui, Mme Varezenon.
Oui, d'après cette délibération, la direction des affaires culturelles d'Agde et son personnel ainsi que les associations culturelles et musicales existantes ne sont pas suffisantes pour organiser et mettre en valeur le patrimoine artistique d'Agde et sa région, notamment par l'organisation d'événements culturels. Pourquoi donc ce cadeau à une nouvelle convention pour l'association Agapé?
Madame Escan devra répondre.
Voilà, donc il existe une enveloppe pour les associations culturelles et toutes les associations, donc là, Agapé, c'est un orchestre symphonique de 32 personnes, donc il faut bien sûr pouvoir le faire fonctionner. Donc on a une subvention qui dépasse donc les 23 700 euros, donc à partir de 23 000, on est obligé de faire une convention. Il faut savoir que cette subvention, elle est aussi pour les EAC, financier. C'est-à-dire qu'en contrepartie, Agapé s'adresse aussi aux scolaires et va faire des interventions scolaires au niveau des classes pour pouvoir faire connaître et appréhender ce type d'orchestre et faire découvrir des instruments. Et en même temps, va pouvoir intervenir au niveau de concerts pour pouvoir solliciter et faire approuver le concert, la musique, découvrir des auteurs notamment, des artistes et des compositeurs à toutes les personnes et notamment aux scolaires. Voilà, c'est pour ça.
Et je vous recommande d'aller écouter l'orchestre Agapé, Madame Varesano, les valses viennoises, vous savez, ça adoucit les mœurs. Hein, ça, toute votre petite troupe, là, ça vous ferait du bien un peu de temps en temps. Voilà, donc sur cette délibération, y a-t-il d'autres remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Bentajou, pour la question 6.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit de l'acquisition d'un bien vacant 100 mètres, parcelle HX75 de 4040 mètres carrés, lieu dit le Pitchigou. Monsieur décédé, donc, c'est monsieur Bouche-Corgue.
Monsieur est décédé, non
hein monsieur Je pense qu'il est décédé, oui.
Ah oui, non, parce que je croyais qu'il s'appelait monsieur décédé.
Non.
Non, d'accord.
Il est de mort naturelle. Hein.
Très bien, monsieur Bentajou. Y a-t-il des remarques là-dessus?
C'est pas vrai.
Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Frey, pour la question 7 et 8. Pour
Merci.
Les questions 7 et 8.
Merci, monsieur le maire. En effet, alors, ces deux délibérations, 7 et 8, sont étroitement liées. Je vais vous les présenter ensemble, et puis monsieur le maire les mettra aux voix séparément, bien évidemment. Elles concernent toutes deux le secteur des Verdis, dont nous savons tous que c'est un endroit qui est à la fois beau et pollué d'un certain nombre d'installations, d'occupations illégales, dont beaucoup d'ailleurs font l'objet de procédures, mais dont vous savez que les délais sont trop longs malheureusement dans notre pays. Donc ce secteur a connu concomitamment une déprise agricole et une occupation de plus en plus importante donc, et illégale de cet espace naturel. Donc il y a quelques années, nous avons pris l'initiative, je vous le rappelle, de solliciter auprès du département, qui en l'occurrence est maître d'ouvrage, la constitution d'un périmètre d'aménagement des espaces naturels. Alors c'est quelque chose d'assez peu connu, c'est un outil juridique qui assoit un projet de reconquête agricole de zones périurbaines. Le PAEN des Verdis, qui est à cheval sur les communes d'Agde et de Vias, compte 600 hectares, donc c'est important, et c'est le premier PAEN du département de l'Hérault. Pour que ce PAEN trouve une réalité juridique, il a fallu qu'un arrêté ministériel soit pris, ce qui a été bien évidemment le cas. Et sur cette base solide juridiquement, nous avons établi un programme d'action et nous avons obtenu aussi, et c'était très important, que soit lancée une déclaration d'utilité publique sur une partie de ce périmètre qui se situe notamment au nord. Pourquoi au nord? Parce que, donc, c'est-à-dire, quand je dis au nord, c'est entre la route de Vias et la voie rapide, parce que se situent à cet endroit les terres qui présentent les plus grandes qualités d'un point de vue agricole. Au sud de la voie rapide, les terres sont belles, mais très salées, et par conséquent, se prêtent avec beaucoup plus de difficultés à des usages agricoles. Donc, une déclaration d'utilité publique a été engagée. Ce qui nous permet dorénavant, et même si le process est long, vous allez pouvoir constater qu'il est désormais efficace, d'exproprier. Voilà. La première chose que nous avons faite, c'était de mettre en place une veille foncière pour préempter, dès lors qu'il y avait des transactions qui nous semblaient ne pas correspondre à la destination du bien. Ça a freiné les transactions. Mais pour autant, il nous fallait reconquérir le terrain qui avait été perdu au cours des décennies passées. Donc nous avons engagé 17 expropriations de manière à reprendre l'emprise foncière. Et nous vous proposons ce soir, ce qui n'était plus espéré de nos amis viticulteurs parce que ils étaient confrontés, vous le savez très, très bien, très justement, à de nombreuses difficultés qui ne sont pas que agricoles. Nous avons la possibilité ce soir donc de passer une convention avec les caves Henri de Richemer afin de mettre à disposition de viticulteurs les 12 premiers hectares qui vont retrouver une vocation agricole. Voilà. Donc là, on rentre véritablement au terme d'une longue procédure juridique dans la reconquête opérationnelle, concrète de ce territoire. Donc 12 hectares vont être proposés à des viticulteurs de la cave Henri de Richemer pour que ces terres retrouvent la destination qui était la leur il y a quelques décennies. Voilà, donc deux délibérations, une pour un prêt à usage d'une durée de 24 ans, c'est la durée d'amortissement des investissements des viticulteurs, et puis une deuxième délibération pour établir les termes d'une convention de partenariat entre la ville d'Agde et les caves Henri de Richemer.
Merci, monsieur le conseiller départemental. Je dis ça parce que là aussi, vous parlez en tant que conseiller départemental, hein, puisque c'est un PAVN, en effet, départemental. Hein. Voilà, donc sur ces deux questions, y a-t-il des remarques, madame Varezano?
Oui, je souhaiterais savoir pourquoi avoir choisi les caves Henri de Richemer.
Oh là là, quelle question!
Ben oui.
Alors, posez-vous là. Allez, essayez de vous la poser.
Ben non, comme on a un conseiller municipal qui en est...
Non, mais vous vouliez qu'on fasse travailler quel viticulteur, madame Varezano? Non, mais
je vais... Il n'y a que ceux-là.
Des viticulteurs de quoi? De champagne? Il fallait
faire travailler. Non, mais les seuls...
Mais ce n'est pas parce qu'un conseiller municipal est président d'une cave coopérative qui compte combien de vignerons...
J'ai le droit de me poser la question, non?
D'ailleurs, combien de vignerons, monsieur Gaudet?
270. Et monsieur le maire, je vous rejoins. On voit tout l'intérêt de madame Varezano pour les agatois.
Oui.
Effectivement, on va conventionner avec un vignoble en Val-de-Loire, par exemple, ou en Bourgogne, ça paraît évident.
Non. Il n'y a pas de viticulteur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, madame Varezano, là, sincèrement, alors, n'exagérez pas.
Vous
connaissez quand même le nombre de viticulteurs qui sont dans les Verdis. Et me concernant, puisque j'ai vu votre regard au moment où on a évoqué les caves Richemer, je vous informe que j'ai commencé ma carrière de viticulteur en 1990 dans les Verdis avec tous les moustiques qu'il y avait.
Oula.
C'était plus agréable que les requins.
Oui, mais madame Varezano, je vous trouve, vous êtes dans le jugement permanent. C'est vrai que c'est très désagréable, mais on commence à vous connaître. Vous savez, il y a 270 vignerons qui sont d'ailleurs pas tous sur Agde et Marseillan. Et d'ailleurs, monsieur Hugonnet, j'allais le dire avant que vous posiez cette question sournoise, ne prendra pas part au vote puisqu'il est président de la cave Richemer. Mais il n'est pas seul vigneron de la cave Richemer. J'espère que ça ne vous avait pas échappé. Et pour autant, on n'allait pas punir 270 vignerons parce que monsieur Hugonnet était président de la cave Richemer puisqu'il a été élu d'ailleurs par ses pairs. Donc vous voyez, votre question est parfaitement ridicule. Voilà.
Alors maire, j'ai une autre question.
Je précise également que les caves Henri de Richemer, sur le projet, il y a un viticulteur qui amène une partie de sa récolte à Florensac également, qui amène à Marseillan, et qu'il y a deux viticulteurs de Marseillan qui vont venir cultiver les terres des Verdis. Ils font le trajet. Il ne s'agit pas que
d'agatois. On ne va pas se justifier à faire travailler des vignerons.
On
ne va
pas donner les terres à la cave de Pomerol ou de Pinet quand même.
Que n'aurait-on entendu, j'imagine, si nous avions choisi d'octroyer ces 12 hectares à des vignerons particuliers, indépendants, alors que nous avons fait le choix de nous tourner vers la cave coopérative qui réunit 270 professionnels.
Comme à votre habitude.
Mais il faut reconnaître ses erreurs de temps en temps, madame
Varezano.
Pour compléter ma réponse, madame Varezano, puisqu'en fait, vous êtes en droit de poser toutes les questions, même les plus stupides. Le département nous a demandé d'associer la cave de Richemer aux travaux du PAEN depuis de nombreuses années, puisqu'il leur semblait évident à eux comme à nous, visiblement pas à vous, que cette cave coopérative...
Mais vous allez peut-être finir par me convaincre.
J'en serais très heureux.
C'est presque dommage que votre copie ne vous ait pas filmé. Vous voyez, ça aurait pu faire partie du grand bêtisier.
Alors, vous savez qu'avec mes amis, on danse pas la valse viennoise, tout ça.
C'est dommage, vous devriez.
Non. On fait le petit verre à ballon, c'est plus festif.
Le petit verre à ballon, oui, ça vous va bien, en effet. Allez-y. Pour la suite.
Bon, alors, on peut lire aussi dans la délibération, la durée du prêt fixé à 24 ans correspond à la durée d'amortissement des plantations de vignes. Cela veut-il dire que la ville fait cadeau des loyers des terrains pendant une durée de 24 ans ?
Non, et madame, alors voilà. Attendez, c'est quand même... En fait, vous êtes satisfaite que enfin nous puissions mettre à disposition des terres agricoles à des viticulteurs de la commune, ou bien vous préféreriez que nous nous désintéressions de ce sujet et que les Verdis restent dans l'état que nous leur connaissons actuellement? C'est quand même incroyable que vous osiez venir poser ces questions ici. 24 ans, en effet, c'est la durée d'amortissement des investissements des propriétaires. Et moi, je vous retourne la question. Ces terres sont municipales. Ces terres sont municipales. Est-ce que vous connaissez des investisseurs, des professionnels qui vont mettre de l'argent, de leur temps, alors qu'ils ne sont pas propriétaires? Répondez.
On pourrait aussi peut-être remercier tout simplement les viticulteurs d'aller se retrousser les manches dans ces terres qui sont quand même pas faciles. On pourrait au moins aussi les remercier. Parce que déjà, trouver des agriculteurs qui veulent bien y aller, c'est déjà pas mal. Vous savez, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs en France. Malheureusement, ils sont très mal payés, on
alors,
le sait tous.
C'est un projet qui était un peu utopique à la base. Si on a de
mais
la
c'est
chance
pas utopique.
De trouver des agriculteurs,
mais ce n'est pas du tout utopique, puisqu'on l'a co-construit avec eux. Donc ce n'est pas du tout utopique. Au contraire, c'est un projet qui répond à nos attentes et on est satisfait. On les remercie. Voilà. Vous pourriez aussi remercier les vignerons agathois de temps en temps. Ça fait du bien un petit peu, vous savez, de se détendre et de dire merci aux gens. Ça, je sais que ce n'est pas dans votre culture tout ça. Vous êtes toujours enfrogné là, en train de chercher des petits détails. Mais de temps en temps, il faut dire merci aux gens, voilà, quand ils font des choses comme ça. Et je vais vous dire, si c'était que moi même, je leur donnerais gratuitement les terres. Parce que vous savez, aller se taper des vignes là-bas dans les Verdis, ce n'est pas évident. Hein, voilà, les terres sont difficiles. On sait qu'il y a encore, malheureusement des gens du voyage autour. On ne sait même pas s'ils ne vont pas se faire piller les cultures. Ça a pu arriver, fut un temps. Donc je trouve que c'est courageux déjà d'y aller. Voilà. Donc n'inversons pas les débats, quoi. Soyons un peu humains quand même. Oui, monsieur Hugonnet.
Simplement, il ne faut quand même pas qu'on comprenne que les terres sont, et les vignes sont déjà en place. Il n'y a rien. Il faut, parce que évidemment, on voit bien que vous ne connaissez pas le métier. Il faut déjà les dessaler, les terres. C'est-à-dire qu'il faut les submerger, les inonder avec le réseau hydraulique existant, au moins pendant 3 ans. Ensuite, il faut les niveler. Il faut les planter. Il faut curer les fossés et les nettoyer. Une plantation, les premiers raisins, c'est 3 ans plus tard. On est déjà à 6 ans de travail, madame. Et pour information, 1 hectare de plantier coûte 25 000 euros, l'hectare. Alors si vous pensez que c'est un cadeau de la municipalité, il faut pas exagérer. Il y a un investissement très très important des viticulteurs qui sont sur le programme.
Et de la communauté d'agglo, non? Il me semblait avoir compris que la communauté d'agglo...
Il y a une convention tripartite.
Oui, mais tout le monde rachète des terres. Et même le conservatoire du littoral, et même le département. Tout le monde rachète des terres, puisqu'on s'est partagé la tâche dans ce de grand domaine des Verdis, en plusieurs secteurs, ce qui est normal. On ne peut pas tout acheter, nous. Voilà. Donc c'est un travail partenarial et qui porte ses fruits. Et moi, je remercie monsieur, en votre nom, M. Hugonnet, parce que j'allais dire que vous ne participerez pas au vote. On n'allait pas le cacher, parce que Mme Varezzano, elle croit qu'on cache tout. Donc vous ne participerez pas au vote, puisque vous avez été élu par vos pères président de la CAV de Richemer.
Depuis 17 ans.
Mais je vous demande de remercier les vignerons qui s'engagent dans ce projet, qu'ils soient de Marseillan d'ailleurs ou d'Agde. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques?
Juste, monsieur le maire, je rajouterai que chaque hectare cultivé, c'est aussi des hectares moins qui vont brûler. Donc c'est quelque chose avec le dérèglement climatique qu'il faut pousser.
Ça, c'est le pompier qui parle en vous, hein, n'est-ce pas? Merci de cette remarque parce qu'elle est judicieuse. Bon, de toute façon, on préfère toujours voir des cultures sur une terre que des terres en friche, hein, c'est clair. Et au passage, je remercie aussi le service que nous avons mis en place avec M. Combes et M. Seco, parce qu'on y fait travailler des TIG actuellement sur des terres des Verdis qui défrichent, hein, qui sont en train de défricher. Voilà. Et ça se passe bien. Et on a mis aussi des animaux pour défricher, enfin voilà, pour paître. Hein. Parce que je n'ai pas toutes vos connaissances en matière d'agriculture, M. Hugonnet, loin s'en faut. Hein, mais j'en ai un petit peu plus, je pense que madame va raison.
Mais j'aime les bêtes aussi.
Bon, de toute façon, monsieur Sablero, l'opinion du chef derrière vous, donc tout était juste. Bien, allez, donc sur cette affaire, y a-t-il d'autres remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Sur la question 8, puisqu'elle est liée à hein, monsieur Frey, y a-t-il d'autres remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc elle est adoptée. On repasse la parole à notre doyen, monsieur Bentajou, pour la question numéro 9. Non? Si, c'est ça?
Ouais.
Je suis quand même, monsieur.
Alors, il s'agit de la création de 2 emprises
LT28 et 62 pour la création d'un fossé chemin de Notre-Dame à Saint-Martin de 94 et 180 mètres carrés à la SARL Nouba. En contrepartie, divers travaux comme déplacement de clôture, création et maintien d'un fossé, etc.
C'était la SARL Nouba qui m'avait fait sourire.
Nouba, c'est ça. Voilà. C'est pas Nouba.
Je regardais M. Dominguez et je ne sais pas. Voilà, la SARL Nouba. Bien. Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, M. Ventajou.
Il s'agit du déclassement et la cession d'une parcelle LL385 de 1371 mètres carrés, rue de l'Égalité, au profit de foncière logement. C'est une cession à titre gratuit dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain pour un projet de 18 logements collectifs.
Merci, M. Ventajou. Y a-t-il des remarques là-dessus? M. Nadal.
C'est la parcelle où il y avait les paraboles. Hein.
Oui, merci. Oui, qui n'ont jamais servi d'ailleurs.
Si, qui ont servi très peu de temps.
Très peu de temps.
C'est un fiasco.
Oui. Allez-y, monsieur.
Merci, merci. Donc, juste pour compléter un petit peu cette délibération, donc on a bien compris qu'il s'agissait de 18 logements sur 1300 mètres carrés, c'est ce que vous venez de dire, que vous confiez à la foncière logement. Donc, on aurait bien aimé savoir quel était un petit peu le projet qu'il allait y avoir dessus. Ça va être certainement du logement collectif, je suppose. Vous avez eu... la foncière est en train d'acquérir cette surface et pour y faire un projet. Est-ce que vous avez des précisions sur ce projet?
Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le permis de construire?
Non, le permis de construire, peut-être
oui,
pas.
Voilà, non,
pas à ce stade, mais je suppose que...
Oui. Monsieur Frey veille au grain, vous le savez, monsieur Nadal, ne risquez rien. Appliquons les nouvelles règles, ne vous inquiétez pas. Si c'était ça, la partie cachée de votre question,
pas du tout,
j'y réponds. Si ce n'était pas ça, alors je m'en excuse, je vous laisse terminer.
N'ayez pas cet esprit suspicieux, j'essaye juste de me renseigner, puisque...
C'est très bien, vous êtes un homme pur. Excusez-moi, monsieur Nadal.
La pureté n'est pas de ce monde, monsieur.
Oui, bon, mais bon.
Vous
en approchez.
Oh, pas du tout. Enfin, la question n'est pas là. La question est de savoir...
Mais le projet n'est pas finalisé, voilà.
Le projet n'est pas finalisé. Et donc, notre question, c'était que, lors du dernier PADD qui nous a été présenté, vous avez évoqué donc des nouvelles règles d'urbanisme, un petit
monsieur.
Peu, c'est-à-dire...
Ah, vous voyez que c'est ça.
Oui,
non, je vous le dis, vous me dites non et vous y arrivez.
Mais laissez-moi terminer. Vous ne voulez pas jamais qu'on vous coupe et puis vous coupez
allez-y,
tout
allez-y,
le monde.
Allez-y.
Laissez-moi aller au moins jusqu'au bout de ce que je veux dire. Après, vous ferez votre remarque. J'en doute pas. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'était que tout autour, toutes ces parcelles, donc, c'est de l'habitat, ce sont des maisons ou des villas individuelles, hein, c'est du R ou du R+1. Et vous aviez dit, lors du dernier PADD, que vous vouliez dédensifier, enfin, qu'il n'y ait pas une densité importante de l'urbanisme dans des endroits où ce n'était pas harmonieux. Or, autour, donc, on voit qu'il y a des villas. Est-ce que, quand le projet se présentera, mais enfin, comme il y a quand même 18 logements sur 1300 mètres carrés, on suppose qu'il va y avoir quand même assez de hauteur, parce que sinon, enfin, on ne peut pas faire 18 villas sur 1000... voilà. Donc ça, c'était ma question, parce que je suppose que, quelque part, vous imaginez bien qu'il va y avoir un immeuble. Et ce n'est pas dans ce que vous aviez dit de désidentification de cette zone-là. Nous, puisque vous nous dites toujours qu'est-ce que vous auriez aimé faire, on pensait que, vu ce que vous aviez dit, dans cette zone-là, vous auriez fait une urbanisation plus équilibrée, peut-être, puisqu'il n'y a pas d'espace vert dans cette zone proche, hein, surtout que il va y avoir bientôt la zone à la chaux qui va être programmée. Donc voilà. Donc apparemment, alors, vous n'avez pas de
monsieur,
projet.
Monsieur Perea va vous donner des informations.
Avec plaisir.
Oui. Avec plaisir également. On anticipe sur la question 16. En fait, il s'agit de la contrepartie Action Logement que l'on donne. On doit Action Logement depuis plus d'un an. D'ailleurs, on est en pourparler avec eux. On devait leur donner 2742 mètres carrés, pour être précis, et ils se contentent finalement de 1200 mètres carrés, justement après un an de négociation, ce qui, pour le coup, en termes de logement sera bien moindre pour eux. Donc il vaut mieux faire sur 1200 m². De plus, s'il y a vraiment un groupe qu'on ne peut pas accuser de faire des gros immeubles et d'entasser de gens dedans, c'est Action Logement qui finance très largement d'ailleurs la rénovation du cœur de ville et les différents dispositifs. Donc ils vont être très attentifs au type de logement qu'ils vont faire là. Je pense que dans leur projet, il y a aussi une démarche associative pour accueillir des publics qui n'arrivent pas à se loger par ailleurs. Donc voilà, c'est évident que ça va faire des logements, mais on va en faire sur 1200 m² au lieu de 2742 m². Donc au final, on y gagne pas mal.
Alors, monsieur Frey, quand même, non, mais sur les règles d'urbanisme, hein, monsieur Frey.
Oui, et pour aller rester dans le fil de la discussion que nous avions eue précédemment à l'occasion de la mise au débat du PADD. Donc, je tiens à vous indiquer que le projet qui sera présenté devra s'inscrire dans les prescriptions que nous avions énoncées et que, par conséquent, il devra s'intégrer à la forme urbaine du quartier tel qu'il existe, ce qui, vous avez raison, est constitué de R+1. Principalement. Donc c'est dans ce profil, dans ce paysage, que le projet devra s'intégrer.
Et comme M. Nadal, on en a parlé hier à l'aglo, je veux quand même préciser à l'ensemble des membres du conseil municipal qu'Action Logement est devenu quand même un partenaire, je dirais, indispensable, presque, pour la rénovation du cœur de ville. Ils ont lancé, je le dis, 350 rénovations. Nous étions avec M. Vial, d'ailleurs, pour les visiter, hein, dernièrement, et franchement, c'est impressionnant. Bon, 350 logements en centre-ville vont être rénovés. Action Logement, c'est ceux qui gèrent, vous savez, le 1% patronal. Donc, c'est destiné qu'à des travailleurs. Hein, les logements sont destinés à des travailleurs, je le précise. Et donc, c'est vrai que dans la globalisation de l'accord qu'on avait avec eux, on leur devait, par rapport à l'engagement qu'ils ont en centre-ville, 350 logements réhabilités, un terrain, et donc M. Perea l'a négocié à cette taille-là. Et je demande à M. Frey de, bien sûr, veiller à appliquer les futures règles du plan local, du PADD, pardon, que nous avons d'ores et déjà adopté, pour qu'il n'y ait pas de, on va dire, de disharmonie dans le quartier, même si, quand même, on le voit, ce terrain a quand même une façade sur un grand boulevard. Enfin, ce qui est réputé, excusez-moi, être un grand boulevard à Agde, hein, voilà, qui est le Pompidou. Voilà. Voilà, donc dans cette affaire, très franchement, la ville d'Agde est largement bénéficiaire, parce qu'Action Logement, quand même, investit, au passage, je le dis, entre les aides directes et les prêts bonifiés, là, je crois que c'est de l'ordre de 8 millions d'euros. Hein, voilà, donc on a quand même un partenariat très constructif avec eux. Hein. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres remarques là-dessus ?
Juste pour terminer.
Je vous en prie.
Donc, on a lu dans la délibération qu'il ne s'agissait pas de logements sociaux. Donc, ça sera de l'accession à la propriété, je suppose, pour des ménages travailleurs.
Là, on n'a pas encore. Encore une fois, c'est une compensation avec Action Logement. Maintenant, on va rentrer dans le projet.
Mais il y a marqué dans la délibération exclu les logements sociaux.
Oui, ben alors c'est que ça sera exclu, je ne sais pas si c'est exclu.
Mais c'est marqué dans la délibération.
Mais si c'est marqué, c'est marqué, monsieur Nadal. Je suis pas en train de dire que c'est pas marqué. C'est marqué.
Ça veut dire que ça sort de l'accession à la propriété. Ça sort de l'accession à la propriété.
Je suppose. Hein, voilà. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Donc qui est contre cette vente ? Qui s'abstient ? Vous abstenez ? C'est bon ? Ok, donc c'est adopté. Monsieur Mentajou, vous poursuivez.
Alors c'est la question numéro 11. Il s'agit du déclassement et de la cession d'un DLC, route de 7, à la société, à la SCCV, entre guillemets, domaine de Terris. Il s'agit d'un talus de 900 m² jouxtant les parcelles IO 298 et 300. La vente se fait au prix de 60 000 euros fixé par France Domaine. Alors, si vous avez des questions à poser, moi, je ne fais que dire qu'on achète ce terrain. Si vous avez des questions à poser sur ce qui va se passer, moi, je suis ravi qu'on l'achète parce que c'est un délaissé qu'on n'en fera jamais rien.
On le vend.
On n'en fera jamais rien.
Monsieur Bentel, je sais pas.
Si vous avez des questions à poser sur ce qui va
se passer,
vous
allez
l'adjoint à l'urbanisme qui va vous répondre. Hein.
Bien. Mais attends, on ne sait pas s'ils ont des questions à poser. Y a-t-il des questions ?
Pas plus, mais puisque M. Bentajou veut que j'en pose une, je vais en poser une.
Non, mais c'est pas, il ne voulait pas forcément que tu en poses une. Hein.
Mais il m'a proposé, je vais le faire. Je ne veux pas non plus le contrarier. Je veux pas. Alors, donc,
je te remercie.
Voilà, c'est pour lui faire plaisir. Donc, là, nous voyons un terrain effectivement enclavé, il a dit le mot, et on se demande pourquoi, en fait, ce terrain enclavé intéresse un promoteur lyonnais. Parce que bon, c'est un terrain qui en soi ne vaut pas grand-chose, puisque c'est un terrain enclavé, il a dit. Et on se dit que est-ce que derrière il y a un projet? Parce que ce promoteur lyonnais, il ne va pas acheter un terrain inaccessible sans avoir une idée derrière. Alors est-ce que vous, vendeur de ce terrain, parce qu'on est, vous êtes les vendeurs de ce terrain, est-ce que derrière ce promoteur que...
On va vous répondre, monsieur Nadal, voilà. On a compris la question. Hein, c'est bon. Voilà. Monsieur Frey va vous répondre.
Alors, monsieur Nadal, ce terrain est vendu un petit peu plus cher d'ailleurs que l'estimation qui a été faite par les services de France Domaine. Et s'il est vendu par la ville au promoteur, c'est à la demande de la ville pour que l'aménageur paysage cette parcelle qui aujourd'hui n'a aucune vocation. Donc c'est nous qui vendons pour exiger du promoteur qu'il paysage.
Voilà, c'est une entrée de ville, hein, on le remarque. C'est donc il y a un projet, monsieur Nadal, ah, voilà, sur l'ensemble des parcelles. Projet, on n'affiche pas les projets à chaque fois qu'on vend une parcelle, monsieur Nadal. Depuis quand on fait ça? Si vous voulez voir le projet, allez au service urbanisme, voir le projet. À chaque fois, vous me demandez d'afficher le projet.
Ce qu'on veut,
c'est un projet privé.
Donc il y a donc un projet
qui est privé.
Qui est privé, d'accord, sur les parcelles qui sont derrière ce terrain.
C'est ça.
Donc en fait, on vend un délaissé qui va valoriser la promotion immobilière.
Non, qui va valoriser l'entrée de ville, on vient de vous l'expliquer. Qui va valoriser, et non, c'est pas entre autres. On vous dit que ça va valoriser l'entrée de ville parce que cette parcelle, qui aujourd'hui est un délaissé assez dégueulasse, va être valorisée, va être donc paysagée. Voilà ce qu'on vous dit, on ne vous dit rien d'autre.
On s'en satisfait, on est satisfait que l'entrée.
Vous
ne
faites
de ville...
pas dire ce qu'on n'a pas mis de dire.
Non, non, mais voilà. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire.
Bien sûr.
Alors ce que je voulais vous demander, justement, c'était que. Est-ce que cette parcelle, en fait, parce qu'en fait, on se demande qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend un délaissé ou est-ce qu'on vend une parcelle qui va valoriser, en fait, la promotion du...
Ben, elle va certainement la valoriser, puisque ça va être partie d'un ensemble. Mais nous, ça va valoriser notre entrée de ville.
Mais,
donc c'est gagnant-gagnant.
Mais, monsieur Nadal, puisque on est... D'ailleurs, aujourd'hui, on instaure une règle dans la relation avec les porteurs de projets. On leur impose de discuter avec la ville d'Agde, avant qu'ils ne déposent leur demande de permis de construire. C'est dorénavant une règle que nous leur imposons. Sinon, ils s'exposent à perdre beaucoup de temps, parce qu'on préfère leur dire, avant que nous n'ayons à instruire leur demande de permis de construire, ce que nous voulons. Et là, pour ce sujet, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises avec quelqu'un qui a signé un compromis pour acheter le foncier qui est derrière... ils sont loin, je peux vous l'assurer, et vous le constaterez lorsque le dossier sera à l'instruction, ils sont loin d'utiliser et de valoriser les surfaces de plancher que le règlement leur autoriserait de créer. Mais très loin.
Puisqu'ils se conforment à notre nouveau PADD. Après, monsieur Nadal, je veux juste vous poser une question. Vous n'êtes pas contre tous les projets? Rassurez-moi.
Non, je ne suis pas contre le projet.
D'accord, je mais je voulais vous l'entendre dire. Parce qu'on ne va pas interdire des gens de vendre leurs parcelles à d'autres gens, quand même. Hein. Ça, je n'en ai pas le pouvoir. Ensuite, des gens viennent déposer en effet des projets. Comme vous dit M. Frey, nous prenons les projets très en amont. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas vous le montrer, puisqu'on discute avec les gens. Et donc, cette parcelle qui ne nous sert à rien aujourd'hui, sur laquelle vous voyez bien, on ne va pas faire une école ou un stade de foot demain là. Donc, par contre, on a envie qu'elle soit valorisée dans un projet global. Et de paysager cette parcelle pour soigner, vous le voyez d'ailleurs, l'entrée de ville, puisqu'on est sur la route de Seine.
Mais après, si la question c'était, et elle a du sens, en vendant 900 mètres carrés, est-ce qu'ils vont pouvoir construire davantage? Ça ne sera pas du tout le cas, parce que vous constaterez que le programme s'inscrit dans les prescriptions évoquées ici lors de la mise au débat du PADD, là aussi, et que le maximum sera du R+2 avec attique.
Voilà. J'espère qu'on a répondu.
C'est juste ce que je voulais savoir.
Voilà.
Je ne vous ai pas demandé quelle était l'architecture du projet. À ce stade-là, bien sûr, on ne le savait pas. Ce qu'on voulait savoir, c'est ce que vous venez de nous dire maintenant au bout de 10 minutes, c'est que derrière, il y aura un projet, bon après, pourquoi pas, de R+2.
Avec attique.
avec
ainsi que ce qu'on a dit dans le PADD.
Voilà. Et donc cette parcelle, c'est ce que je voulais dire depuis le début, elle est là. Peut-être que ça va être l'anneau de pour l'écoulement des eaux, des choses comme ça.
C'est ça.
Ça valorisera où, je pense que ça va être ça. Et sans cette noue, j'allais dire, il pouvait peut-être pas faire le projet
si, immobilier qu'il y a. Si, il pouvait le faire, mais de manière plus condensée. Et donc plus là, il sera plus étendu, voilà. Avec moins de, il n'y aura pas forcément plus de droits à construire, mais nous aurons du paysage en plus. Donc
c'est uniquement ma question. On ne va pas qu'un délaissé, c'est pas qu'un délaissé.
Mais vous avez raison. Mais ça s'appelle comme ça dans le droit. Ça s'appelle un délaissé.
Mais c'est bien que tout soit dit.
Il faut que tout soit dit.
On n'est pas opposé à tout ce qui
c'est bon, alors on est d'accord. Donc tout va bien.
Et donc on va passer sur cette question-là, on s'abstiendra le temps qu'on voit ce que ce projet doit avoir derrière.
D'accord, ok. Enfin, on ne revotera pas. Bien. Allez, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté. Monsieur Bentajou, la question suivante.
Alors, il s'agit d'une cession à titre gratuit de KP 183, lieu dit le Mont-Saint-Loup. Alors cette parcelle de 8 mètres carrés est intégrée à la zone clôturée autour de l'antenne gérée par le ministère des Armées. L'estimation de France Domaine, c'est 8 euros.
D'accord.
Ça coûtera plus cher en papier que...
Oui, c'est sûr. Bien, là-dessus, des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, monsieur Bentajou.
Oui, c'est toujours moi.
Mais oui.
C'est la cession d'une emprise chemin du Grand Quiste, madame Pumeau.
Madame Pumeau. Voilà.
De la parcelle MO 248 de 803 mètres carrés. Alors, suite à la construction d'une servitude de passage, la partie cédée sera de 698 mètres carrés. Au même prix que si elle avait été de 803 mètres carrés, soit 250 000 euros.
Ok. Des questions là-dessus ? Non, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Vial, la parole est à vous.
Merci,
pour la question numéro 14.
Bonsoir. Alors, l'objet principal de cette délibération est de pouvoir permettre à la commune d'influencer plus directement la qualité de la prestation assurée par le restaurant associé au golfe international du Cap d'Agde. Actuellement, la situation contractuelle, bail infériotique et bail commercial, ne permet pas à la commune d'agir sur l'exploitant de fonds de commerce puisque ce dernier est lié avec l'amphithéote, qui est la société Golf Hôtel Cap d'Agde. Dans le même temps, il apparaît que la piscine, initialement construite pour le golf dans le cadre du bail amphithéotique, est utilisée principalement par les clients de l'hôtel Palmyra. Aussi, il est proposé, de mettre fin au bail amphithéotique de manière anticipée, de moyennant un paiement d'une indemnité de 405 000 euros pour récupérer la gestion du bail commercial du restaurant. Il est également proposé pour compenser que la piscine soit cédée à la société Golf Hotel Cap d'Agde, moyennant le paiement d'un prix de 405 000 euros. Au final, les deux opérations se compensent.
Merci, M. Vial. Vous avez été d'une précision incroyable. Y a-t-il des remarques sur cette question ? Monsieur Nadal.
Alors, d'être très satisfait, bien sûr, que le Gaulle récupère un restaurant qui soit au niveau du golf. Hein, ça ne peut que valoriser ce golf, bien entendu. Donc, sur la vente, bon, on suppose que les domaines ont fait une évaluation et vous êtes tenu à ce que les domaines faisaient. La seule question qu'on avait, encore une fois, ça ne remet pas en cause le fait que le golf récupère le restaurant. Hein, sur la philosophie de cette chose-là, que l'hôtel gère une piscine et que le golf puisse récupérer et que la ville puisse à terme récupérer un golf, que le golf puisse par contre récupérer un restaurant pour que ça puisse valoriser le golf, ça peut s'entendre. C'était juste ma question, elle était juste comment vous avez réussi à on voit bien que 405 000 de ventes d'un côté équivaut à 405 000 de ventes d'un fonds de commerce. Comment vous avez évalué ce 405 000 ? Vous avez eu les bilans du restaurant qui faisaient que c'était la somme qui était en...
Axel va vous répondre. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, déjà. Voilà, donc Monsieur Canton, et je traduis parce que tout le public n'entend pas, c'est France Domaine, en effet, qui a fait l'évaluation dans les deux sens. Voilà. Voilà, hein ? Voilà, Monsieur Nadal. C'est bon ? Allez, on va passer au vote, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté.
Monsieur Frey, on revient à vous pour le pôle d'échange multimodal, le fameux PEM, qui correspond à la gare d'Agde.
Voilà, c'est donc la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée qui pilote ce projet de pôle d'échange multimodal de la gare d'Agde. Le projet est mené en partenariat avec l'État, la région, le département, évidemment la ville, mais aussi, ça ne vous surprendra pas, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion et SNCF Immobilier. Le projet est conduit alors, concomitamment et de façon complémentaire au projet de mise en accessibilité de la gare, enfin, ou plutôt de la gare et des quais, qui lui est piloté par SNCF Gare et Connexion. Une première phase d'étude préalable a porté sur la faisabilité technique du projet de PEM. Le scénario intègre une passerelle qui est à la fois urbaine et ferroviaire. Autrement dit, urbaine, elle va permettre d'aller jusque à la Méditerranéenne. Ferroviaire, elle va permettre de desservir les quais de la gare d'Agde. Et donc, les personnes, notamment à mobilité réduite, auront enfin accès aux quais dans des conditions dignes et normales. Il nous faut maintenant engager des études d'avant-projet. L'estimation du coût de ces études est fixée à 96 000 euros hors taxes. Et donc, cette charge est répartie à parts égales entre la région, le département, l'agglomération et la ville d'Agde pour 25% chacun, autrement dit 24 000 euros hors taxes pour chacune des collectivités que je viens de nommer.
Voilà. Je rappelle d'ailleurs que le chantier de la Trémie, le directeur général des services techniques me le disait, dont tiendra ses promesses, hein, en juin, il sera ouvert. Voilà, c'est un chantier qui a duré quand même un an et demi. Et donc, on va enchaîner derrière avec la gare. Donc, là aussi, un énorme chantier de réhabilitation de cette gare qui en a bien besoin et qui est voué d'ailleurs à augmenter le nombre de passagers, hein, puisque je crois, monsieur Frey, de mémoire, qu'on doit franchir la barre du million. Enfin, on va arriver même à 1 300 000 passagers d'ici 4-5 ans. Hein. Bien, y a-t-il des remarques là-dessus ? Non, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Perea, la parole est à vous pour la question numéro 16.
On y revient. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du centre-ville, ce projet il est décliné dans une convention pluriannuelle qui a trait aux îlots, à l'amélioration de la qualité de vie et au dialogue social et à la revitalisation du cœur de ville. Comme elle est pluriannuelle, on se doute que ben, régulièrement, il faut faire des ajustements. Le premier a eu lieu en juillet 2022 et en voici un autre sur deux points essentiellement. Le premier, c'est le changement de maîtrise d'ouvrage de l'agglo aux aménageurs qui ont été choisis, Proméo pour l'îlot Brescou et ICAD pour Notre-Dame. Donc, ils ont gagné le marché public et donc on leur transfère cette maîtrise d'ouvrage. Et le second, c'est la contrepartie d'Action Logement que nous évoquions tout à l'heure, qui se fait, je le rappelle, à notre avantage, hein, d'une part, puisqu'au lieu de 2742 mètres carrés de surface de plancher qu'ils devaient avoir, ils acceptent d'en avoir que 1200 mètres carrés, sur lequel, alors information pour répondre aux questions de tout à l'heure, vont être construits 15 logements de qualité à des prix attractifs destinés aux travailleurs, mais qui ne seront pas des logements sociaux, puisque ça rentre dans la stratégie de mixité sociale au cœur de ville. Et donc, puisque nous faisons pas mal de logements sociaux, le haut du logement social, si j'ose dire, eh bien, Action Logement accepte ici d'en faire 15 qui ne soient pas des logements sociaux, mais qui restent encore une fois attractifs. Au total, pour compléter, monsieur le maire, ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons aujourd'hui contractualisé avec ces 15, puisque ça m'a permis de faire le calcul et de tenir à jour, 351 logements qui vont être refaits dans le quartier prioritaire de la ville, 351 qui sont écrits aujourd'hui dans les contrats aujourd'hui, mais on espère bien évidemment pouvoir monter et s'approcher des 400 si possible d'ici la fin du mandat. J'en profite juste, excusez-moi c'est un peu long, pour remercier l'ensemble des équipes qui vraiment va chercher chaque pied d'immeuble, chaque étage pour pouvoir trouver des solutions. Et entre 350 et 400 logements rénovés au cœur de ville, je crois qu'on peut être très satisfait de leur travail et de l'engagement des Agatois et des investisseurs aussi dans le cœur de ville. C'est, on peut le dire très, très, très objectivement, une vraie réussite. En tout cas, c'est ce que nous disent nos partenaires.
Voilà, et ça va durer. Bien, merci François. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. On passe la parole à Guylaine Toureau pour l'avenant numéro 1 à la DSP de la Sodéal.
Merci, monsieur le maire.
La concession,
bonsoir,
pardon.
Bonsoir, messieurs, dames. Le conseil municipal a attribué, à l'issue d'une procédure de concession de service public à la SODEAL, le contrat pour la gestion et l'exploitation du port du Cap d'Agde, du port en Bonne et du centre nautique du Cap d'Agde pour une durée de 20 ans. Il est proposé aujourd'hui que ce contrat fasse l'objet d'un avenant numéro 1, annexé à la présente délibération pour valider le recours à un marché global de performance pour la réalisation des travaux de création du port connecté, la modification du périmètre concédé pour extraire le linéaire de quai sur lequel est positionnée la maison de la mer, la création et la modification de certains tarifs d'occupation du domaine public portuaire, le changement de la valeur d'un indice utilisé pour la revalorisation de la redevance et des tarifs, et enfin de supprimer les modalités relatives à la garantie à première demande.
Merci, Guilhem. Y a-t-il des remarques là-dessus? Vous avez dégainé plus vite que M. Nadal, vous vouliez dire un truc? Bon, allez-y, Madame Varezan.
Vous nous demandez, au travers de cet avenant, de voter de sérieuses augmentations allant jusqu'à 30% pour les professionnels du nautisme et 12% pour les plaisanciers. En ce qui concerne les plaisanciers, la place de port est aujourd'hui 20% plus chère sur Agde que dans des ports voisins comme la Grande Motte, Port Camargue ou encore Sète, des ports comparables à celui du Cap d'Agde. Pour justifier cette augmentation, vous invoquez l'explosion du coût des matières premières. Or, Port Camargue n'augmente que de 2% alors qu'ils sont également impactés par l'explosion du coût de ces mêmes matières premières. Comment justifiez-vous une telle différence ? D'autre part, je souhaiterais savoir si l'arrêté municipal concernant la nomination des membres du Conseil portuaire a été affiché. Merci.
La nomination des membres du Conseil portuaire a été affichée. L'arrêté que j'ai remis ce matin à qui ?
Un arrêté qui...
D'accord. Vous me demandez si j'ai affiché un arrêté, moi, depuis ce matin, c'est ça ?
Si l'arrêté a été
affiché.
Affiché, comme il aurait dû l'être, je pense.
Je vais poser la question à l'administration, parce que moi, je ne fais pas d'affichage directement.
Non, pas vous.
Monsieur Nadal, oui, mais je vais leur poser la question le temps qui me donne la réponse.
Non, mais parce que c'est important, hein, vous mais rigolez, mais c'est très important.
Je ne rigole de rien avec vous. Je ne veux surtout pas rire avec vous.
Ah, non.
Parce que je sais que vous n'êtes pas très rigolote. Vous n'êtes pas super rigolote.
On n'a peut-être pas les mêmes sujets.
Donc je ne veux surtout pas rire avec vous, Madame Varezan.
Non, mais ça, c'est important, c'est mais peut-être illégal.
Je vais répondre à votre question. Mais oui, je suis honorable à la loi chronique avec vous, je le sais, Madame Varezan. Non, ne vous inquiétez pas. Allez, Monsieur Nadal, il y avait une question à poser aussi.
J'ai d'autres questions, non ? Pourquoi attendez,
excusez-moi, je croyais que vous aviez terminé.
Ah, mais non, mais vous avez répondu en partie à ma question.
Non, je n'ai pas répondu, je voulais prendre toutes les questions et répondre à toutes. Mais allez-y, posez-les jusqu'au bout, vos questions. Pourquoi vous ne la posez pas jusqu'au bout ? Ah, c'est fait, d'accord, ok. Mais vous me dites, j'ai d'autres questions à poser. Monsieur Nadal, allez-y.
Ma remarque recoupe un petit peu ce qui vient d'être dit, quoi. Ça a été dit, les plaisanciers, cette année, leur tarif a été augmenté de 12%. Apparemment, les professionnels, c'est 30%. J'ai fait aussi un comparatif avec les tarifs de Saint-Cyprien, Port Camargue, la Grande Motte, et on arrive quasiment pour des ports, surtout la Grande Motte, quand même, qui est le port référence un petit peu avec nous sur la côte occitane, et on est quand même à 20% de plus par rapport à ces ports similaires. Voilà. Alors c'est sûr que bon, la Grande Motte et Port Camargue, ils n'ont pas la même gestion. Nous, c'est une société d'économie mixte, et eux, c'est une régie municipale. Donc peut-être on reviendra là-dessus. Mais Madame Varezano l'a dit, je veux dire, ces mêmes ports ont les mêmes contraintes que nous, que ce soit d'un point de vue économique. Vous invoquez aussi dans la délibération la sécurité, donc qui a un coût, etc. Cette augmentation, bien sûr, porte sur les plaisanciers, elle porte sur les professionnels, je vous l'ai dit, mais ces professionnels, cette augmentation va porter atteinte un peu à leur compétitivité. Ils vont être forcément obligés de répercuter le coût de cette augmentation sur les plaisanciers. Donc pour eux, ça sera un petit peu la double peine. D'autre part, Je voulais savoir aussi comment on peut arriver à un tel différentiel de tarification. Est-ce que c'est juste un problème de gestion entre la Grande Motte et Port-Camargue? Est-ce que c'est une différence de type de gestion entre une régie municipale et une société d'économie mixte? Pourquoi on arrive en 2023 à un tel différentiel qui est quand même important? Alors j'ai fait la comparaison sur les catégories 2, 3 et 4, qui sont les catégories qui vont entre 5 mètres et 9 mètres 50. On pourrait faire la comparaison sur d'autres, mais le différentiel nous paraît quand même assez important. Voilà.
Alors, d'abord, je n'ai pas ces chiffres-là, monsieur Nadal. Peut-être que vous avez pris la catégorie la plus désavantageuse pour me sortir 20%. Je rappelle quand même que concernant les professionnels, parce qu'on a discuté avec eux, ils payaient des sommes ridicules sur les mètres carrés qu'on leur a loués. C'était 0,27 centimes. Vous voyez, donc quand on parle de 30%, il faut voir d'où on part. Hein, je me permets juste de rappeler ça quand même à l'ensemble des conseils municipaux. Après, sur l'augmentation de 12%, M. Nadal, on ne le fait jamais de gaieté de cœur, Mme Varesano, parce que vous avez posé aussi la question, on ne le fait jamais de gaieté de cœur. L'électricité augmente. Alors, je ne sais pas si à Port-Camargue, elle n'augmente pas l'électricité. Mais il me semble qu'elle augmente dans tout le pays. On a ensuite une convention des ports sur les salaires. Alors, peut-être parce qu'on est en société d'économie mixte, en effet, mais qui a augmenté les salaires de 6,5% des agents de la Sodéal, qu'on est obligé de respecter. Voilà, donc ça, je vais vous dire, M. Nadal, l'inflation a été de 7% sur l'année 2022. Il faut quand même le savoir. Ça ne vous a pas échappé sur la restauration scolaire. Vous voyez, on nous demandait d'augmenter de 17%. Il n'y aura pas. Parce qu'il y a des matières premières qui ont plus augmenté que d'autres. Sur les marchés de bons à commande avec les travaux publics, ça nous a augmenté de 17% aussi. Donc je veux quand même que vous soyez un peu dans la réalité des chiffres, hein, et que tout ça augmente de partout. Hein. Il n'y a pas que nous, à la Sodéal. Enfin, on a l'impression, quand on vous écoute, qu'on est un îlot d'augmentation et que partout ailleurs en France, tout va bien. Non, l'électricité, il me semble qu'elle augmente pour tout le monde. Je rappelle quand même à l'Assemblée que nous l'achetons 3,5 fois plus cher cette année. Cette année, on l'achète 3,5 fois plus cher sur la ville et sur le port. Et que quand même, monsieur Nadal, je tiens à le rappeler, c'est que cette augmentation va nous permettre aussi d'être au rendez-vous de l'investissement que l'on veut faire sur le port du Cap d'Agde, qui est d'individualiser notamment les factures d'eau et d'électricité. Parce que ce dont on se rend compte depuis des années, c'est qu'il y a des gens qui abusent, et il y a des gens qui n'abusent pas. C'est toujours pareil, dès que vous mélangez la somme divisée par le nombre de plaisanciers, il y en a qui consomment beaucoup plus que d'autres, parce qu'en fait, il n'y a aucune limite du fait qu'il n'y ait pas de compteur individuel. Donc nous voulons avoir ces fameux compteurs, ça s'appelle comment déjà des comptes, hein? Des compteurs intelligents, des trucs
connectés,
merci. Où on puisse, on va s'assurer de la technologie, parce que je sais, j'ai entendu les plaisanciers ce matin qui nous disaient, voilà, qu'on prenne la bonne technologie pour avoir ces bons compteurs, investir dedans et que chacun paye ce qu'il doit en matière d'énergie. On va sortir d'ailleurs, monsieur Nadal, je m'y suis engagé ce matin, parce qu'on va refaire un conseil portuaire. Madame Varesano, vous en êtes ravie, j'en suis sûr, qu'on ait affiché ou pas les appeler, mais vous inquiétez pas, on avait le quorum ce matin, tout allait bien, et on va refaire un conseil portuaire, et je m'y suis engagé, pour dégager exactement ce que coûte la part de l'énergie dans un abonnement de bateau, hein, de manière à ce qu'on montre que par nos investissements, on va forcément réduire le prix à terme de l'anneau, puisque les jeunes seront plus vertueux dans leur consommation d'énergie. Vous le comprenez. Si vous, dans votre quartier, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien, vous étiez dans un immeuble où finalement tout le monde paye la facture d'électricité divisée par le nombre de locataires, forcément, s'il y en a un qui abuse, au bout d'un moment, vous trouvez ça injuste. Voilà. Et de la même manière, sur le plan d'eau, il y a malheureusement de plus en plus de gens qui louent avec Airbnb. Il y a de plus en plus de gens qui ont des activités, parfois même des activités souterraines de commercialisation de leur embarcation, ce qui quand même n'est pas normalement permis par la loi et qu'on décèlera plus facilement avec ces compteurs individualisés aussi. Voilà, donc moi, je veux mettre de l'ordre dans tout ça. Cette année, on subit ces augmentations. Alors, si les autres ne les subissent pas, tant mieux pour eux, mais il faudra qu'ils m'expliquent comment. Parce qu'en augmentant de 2%, Port-Camargue, ce n'est même pas l'inflation. c'est même pas l'inflation. Voilà, je vous le dis. Il y a eu 7% d'inflation, fait M. Figueras. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Mais les bases fiscales, vous avez vu, ont augmenté de 7,1%. On a eu ce débat, d'ailleurs. Hein. Donc ça veut bien dire que l'État, s'il a mis 7,1% sur les bases fiscales, on ne peut pas aller à l'encontre de ce chiffre. Bon. Voilà, donc à partir de là, M. Nadal, je le redis, si à la fin de l'année, on va investir, si l'année prochaine, bien entendu, nous n'avons pas la même augmentation de l'énergie, je m'engagerai à ne pas augmenter, bien sûr, enfin, avec le président, en accord avec le président de la SODER, M. Hugonnet, à ne pas augmenter les pontons. Voilà. Mais cette année, il faut qu'on passe ce cap, tout simplement. M. Vigard, vous vouliez dire quoi?
Merci. C'est génial là, le développement que vous venez de faire, parce que ça va un peu venir compléter ce que je vais vous dire.
Je suis quoi, mec génial?
Ouais.
Ce
que vous venez de.
Ben ça oui, fait parce plaisir que, de vous entendre dire ça. J'aimerais l'entendre la bouche de votre voisine de temps en temps. Mais
vous
ne
me prenez pas.
Pas jusque là.
Je sais que c'est la Saint-Valentin, mais ne vous me prenez pas quand même.
Mais remarquez, vous avez raison. J'aurais pu offrir une rose à votre voisine.
Alors. Donc, après les nombreux rebondissements de ces dernières années, ces deux dernières années, on va dire, concernant la SODEAL, qui a donné lieu ici même à quelques échanges un peu engagés, allant, je me rappelle même, jusqu'à mettre en doute un peu la bonne gestion de cette société, qui a profité, je le rappelle, de quand même quelques largesses de la municipalité sur des abandons de loyers, par exemple, où ça se chiffrait quand même en centaines de milliers d'euros. Voici une nouvelle délibération qui ne passe pas, et qui suscite vraiment l'indignation de nombreux plaisanciers et de nombreux professionnels, acteurs, on le sait, majeurs du tourisme, qui ont déjà subi une première crise de plein fouet, et qui, avec les plaisanciers, dénoncent un peu cette prise d'otage qui les transforme en véritable variable d'ajustement budgétaire. L'application de certaines augmentations peuvent paraître incompréhensibles. Je peux parler par exemple des marinas, certaines marinas qui vont subir cette augmentation alors qu'ils payent déjà leur eau, leur électricité indépendamment de la SODEAL. On a des supposées charges mises en charge sur la SODEAL qui devraient revenir à la municipalité. Je pense par exemple aux sanitaires publics. Mais j'ai quelque chose qui me gêne encore plus donc. Je reviens sur le dernier conseil municipal de novembre, il y a 3 mois. La SODEAL nous présentait son rapport 2021. Vous l'avez, tout le monde l'a, tout le monde peut le vérifier. Dans ce rapport, il ressort les chiffres, les achats, services extérieurs, charges externes, tout ce qui est EDF, tout ce que vous nous dites qui augmente, était à 3,9 millions, et les charges de personnel à 3,2 millions. Je vous fais l'addition, on est quasiment à 7,2 millions de charges. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, le prévisionnel, fait état de ces mêmes charges à hauteur de 7,6 millions. Ça veut dire, pardon du terme, à peine 400 000 euros de différentiel. Mais je vois apparaître une ligne provision pour renouvellement à hauteur de 725 000 euros tous les ans pendant des années, c'est ce que vous disiez, les investissements. Avec un résultat de la SODEAL, au final, avec ces investissements, qui ressort avec un bénéfice de 800 000 euros. Alors, ma question est simple. Comment pouvez-vous, sous couvert de Covid, de guerre en Ukraine, d'augmentation des coûts de l'énergie qu'on entend et dont on se lasse finalement, demander aux usagers de non pas aider la SODEAL à survivre, à passer un cap, mais plutôt à l'aider à financer des investissements qu'elle n'a pas fait depuis 20 ans? Un artisan boulanger qui voit aujourd'hui ses coûts augmenter, lui, il augmente à contre-cœur ses prix, mais pour survivre, pas pour investir. Pas pour investir. Alors c'est un peu trop facile, de façon arbitraire, de faire payer les usagers pour se substituer à des carences de la SODEAL qui durent depuis des années. Pardon, mais dans ces temps de crise, le port connecté peut attendre, les investissements peuvent être ralentis en attendant des jours meilleurs, mais on le sait que ce n'est pas ce que vous voulez, quitte à faire payer les autres. Alors, pour ma part et pour notre part, plus qu'une question, c'est une véritable requête que nous faisons. Nous vous demandons de retirer cette délibération et à la SODEAL de revoir sa copie à ce niveau-là.
Ouais, mais je suis fondamentalement pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais l'expliquer quand même. Je vais l'expliquer parce que vous avez le droit de penser ça. Mais moi, je pense que c'est justement dans la crise qu'il faut investir. faut pas se croiser les deux bras. Et vous me dites pourquoi vous n'avez pas investi depuis 20 ans. Excusez-moi, l'énergie, elle vient d'augmenter cette année. Je pense que c'est au contraire, si on ne le fait pas, qu'on est en faute. Et je vais vous dire juste une chose. Vous parlez des usagers, mais les usagers, ils sont tous d'accord qu'on investisse là-dedans quand même. Alors, je vous mets entre parenthèses, c'est vrai, l'île des marinas, puisque là, ils payent leur électricité. Et vous avez raison, peut-être que là-dessus, il faudra qu'on regarde. Mais c'est très compliqué, l'île des marinas, parce que l'État, malheureusement, a un peu fauté sur le domaine, entre le domaine public et le domaine privé. Donc, c'est un sujet à part, mais vous avez raison, il faudra certainement qu'on le règle. Mais sur le reste, ça me rappelle un petit peu le débat qu'on a vu pendant la délégation de services publics des campings, là, qui fait la joie de Mme Varesano à chaque conseil municipal, et que vous me disiez, vous ne trouverez personne parce que c'est la crise. Je dis, mais c'est justement le moment, il faut le faire. On l'a fait, bon. On voit que maintenant, ils investissent presque trop et que ça embête certains d'entre vous. Mais moi, je pense que la crise de l'énergie, j'ai presque envie de vous dire, il y a 10 ans, on s'en foutait du prix de l'électricité et de l'eau, parce que finalement, on l'avait à un prix... je rappelle que le parc nucléaire français fonctionnait bien, que voilà, tout allait bien. On avait l'énergie la moins chère d'Europe. Ben, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il vaut mieux le faire maintenant, cet investissement. Vous dites que vous faites payer par les autres. Oui, je ne vais pas le payer de ma poche. On fait toujours payer par la collectivité. Là, c'est la collectivité des usagers. Mais, monsieur Figueras, je vous le signe là, dans l'espoir de baisser les prix des anneaux. C'est ça! Et de baisser et de mettre de l'équité. Vous comprenez ce mot, l'équité. L'équité, c'est-à-dire qu'on fasse payer à l'usager exactement ce qu'il consomme et qu'on ne lui fasse pas payer ce que consomme son voisin. Voilà. Donc moi, c'est une notion, pour moi, de justice. Et cette notion de justice, je la veux rapidement. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix, parce que 12%, c'est beaucoup, vous avez raison. Et donc, si l'année prochaine, on peut déjà ne pas augmenter, on va essayer de rattraper au fur et à mesure cette augmentation. Je m'y suis engagé. On verra bien si je tiendrai le pari. Donc, faites-moi, au moins comme pour les campings, puisque vous ne croyez pas que j'allais trouver quelqu'un, prêtez-moi une certaine... au moins les éléments du doute. Hein, voilà, ne soyez pas trop catégorique.
Non. Alors... Juste une parenthèse que je vais refermer très vite sur les campings. Je me souviens du débat quand je vous avais dit que vous ne trouverez personne. Aujourd'hui, je maintiens. Je maintiens parce que quand vous nous avez présenté la délibération, les termes du contrat que vous nous avez présenté n'étaient plus du tout les mêmes quand il a été signé.
Vous chipotez, là.
Je chipote pas.
Parce qu'on a trouvé quelqu'un.
Le chipotage porte sur 1 million d'euros quand même quand vous faites...
Vous disiez qu'on allait trouver personne, là, vous êtes en train de me dire que les termes du contrat changé. Mais on avait trouvé quelqu'un, quand même.
Oui, mais
soyez honnête, au moins, dites-le, reconnaissez-le.
Soyez honnête aussi de dire que vous ne nous avez pas présenté le bon contrat au bon moment, et vous nous demandez de juger sur un contrat. On juge, on vous dit non.
Juge sur les
faits.
Deux mois
après, vous sortez un contrat qui n'a plus rien à voir. Donc, voilà, je referme la parenthèse.
On va pas revenir sur
le débat. Je referme la parenthèse. Donc, ce que je veux vous dire sur la Sodeal, c'est que vous avez parfaitement raison. Moi, je suis partisan de, vous savez, le proverbe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, en période de crise, oui, on investit, c'est ce que vous dites. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ces investissements-là, ça fait des années qu'ils auraient dû être faits contractuellement.
Mais monsieur...
Ils n'ont pas été faits, vous le savez qu'ils n'ont pas été faits.
Mais la technologie n'était pas au point, les consommations... Non, mais on peut faire tous les procès du passé, monsieur Figueras, ça ne sert à rien. Tournons-nous vers l'avenir. Moi, j'ai envie de vous dire, faisons-le cet investissement, et je suis sûr qu'il va porter ses fruits, et que nous pourrons baisser les abonnements des usagers. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de saigner les usagers. Vous croyez que ça me fait plaisir d'augmenter des tarifs? On s'essaigne déjà dans la mairie pour ne pas augmenter les impôts alors qu'on a pris 3,5 millions d'énergie en plus. Mais la Sodeal, elle a moins de marge de manœuvre. Donc, mais par contre, je veux qu'on investisse pour justement, à terme, baisser les prix des usagers. Voilà. Et avoir, entre parenthèses, un port avec des services aussi.
Oui. Hein,
voilà, c'est le but.
Oui.
Bon, voilà. Après, on peut avoir cette discussion jusqu'à demain matin.
Bon. Donc vous maintenez...
Je maintiens la délibération. Tout à fait. Bien. Allez, je la mets aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée. Monsieur Bonafou, vous allez nous parler de sécurité.
Oui, merci monsieur le maire. Donc il s'agit simplement d'autoriser le conseil municipal à modifier le plan d'exploitation des caméras de vidéoprotection de la ville avec l'acquisition et l'installation de 6 caméras supplémentaires dont le site ont été étudiés par le directeur de la police municipale et la commissaire de police. À noter que donc le coût de ce projet s'élève à 44 603 euros hors taxes et qu'on aura une subvention du fonds d'indemnisation de prévention de la délinquance qui devrait atteindre 40%, soit 17 785 euros. Voilà. Et donc le nombre de caméras à la ville passera à 102. On poursuit donc le développement annuel chaque année des vidéos pour des caméras.
Merci, Monsieur Monafou. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Non, c'est bon. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Alors, je vous propose dans la délibération qui suit d'adhérer, de faire adhérer la ville d'Agde à une agence que nous voulons créer pour d'attractivité Cap d'Agde Destination, nous l'appellerions comme ça, et donc afin d'adopter des statuts et désigner un représentant de la ville, qui serait moi. Je vous proposerai ma candidature. Il y aurait un représentant de la SODEAL, un représentant de l'Office du tourisme, un représentant de l'agglomération, donc qui participerait pour la création de cette association, hein, qui, afin de faire face à la compétition entre les territoires, hein, je vous rappelle qu'il est aujourd'hui nécessaire de compléter nos outils en vue de mieux maîtriser l'image de la ville et de développer son rayonnement sur le territoire national, voilà, mais aussi à l'international. Donc je rappelle que c'est cette agence d'attractivité gérera donc la commercialisation du golf, du tennis, du Château Laurent, du Palais des Congrès et du Centre Aquatique et du Centre Nautique. Voilà. Donc autant d'outils que nous avons la chance et le bonheur de gérer avec donc toutes ces institutions et que nous proposons de mettre en fait la commercialisation en commun, hein, pour faire face à la concurrence, comme je le disais. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des précisions, Monsieur Nadal ?
Oui, juste une précision, parce que bon. On se demande, cette agence, en fait, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus que fait déjà l'Office du tourisme. Lors des différents vœux auxquels vous nous avez invités à participer, bon, vous avez toujours vanté les qualités de notre Office du tourisme, son caractère exceptionnel, dynamique, et bon, nous adhérons à cette vision-là. Et on se demande, cette agence supplémentaire, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire que...
Je vais vous expliquer. J'ai compris la question.
L'OT ne ferait pas. Avec un coût, parce que je suppose que ça va avoir un coût.
Bien sûr.
Donc on rajoute un coût à quelque chose...
Mais pour gagner des clients, quand même.
Est-ce que l'OT ne peut pas avoir
alors, ce rôle-là ? Je vais vous expliquer. L'Office du tourisme, c'est l'Office du tourisme de tous les professionnels du tourisme. D'accord ? C'est pas l'Office du tourisme que... Des institutions que je viens de décrire, le tennis, le golf. Donc, l'Office de tourisme est là pour mettre en ligne sur son site internet, en effet, faire des salons. Là, nous allons vendre des produits spécifiques à ces outils-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, demain, une famille va venir passer une semaine au Cap d'Agde. On va leur proposer d'avoir un tarif si elle veut aller jouer au golf, si elle veut visiter le Château Laurent. On va même aller à l'offensive pour aller vanter les mérites de ces fameux outils. Voilà, donc l'Office de tourisme, elle n'est pas taillée que pour ça. Et donc il nous faut, j'ai envie de dire, une cavalerie légère pour justement commercialiser. C'est aujourd'hui le fait d'être dans l'air du temps, excusez-moi de vous le rappeler, mais de faire en sorte de mettre en musique un peu l'ensemble de nos outils. Voilà, écoutez, je viendrai au rapport pour vous dire... tous les clients que ça nous a permis d'attirer. Croyez bien qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire ça si on veut absolument mettre en musique nos acteurs.
On souhaite que le Cap d'Agde attire le plus de monde.
J'entends.
La question n'était pas là. Mais est-ce que cette compétence-là, elle ne pourrait pas être développée au sein de l'Office du tourisme avec cette fameuse cavalerie légère sans forcément créer de nouveaux...
Mais c'est une cavalerie plus légère de le faire avec une association.
Un comité Théodule, non ?
Non, ce n'est pas un comité Théodule, monsieur. Vous n'êtes pas gentil.
Non, mais on crée une nouvelle structure. On a les compétences à l'intérieur de l'OT pour faire ce genre de choses-là.
Non, mais parce que l'Office du tourisme, je vous le rappelle, Monsieur Nadal, est sur les 20 communes de l'agglo. D'accord ? Là, on ne va commercialiser que des outils de la ville d'Agde. Voilà. Donc on crée un outil spécifique. Je vous le détaillerai. On n'a pas de souci là-dessus.
Et alors, je fais un lien aussi avec dans les comptes rendus que vous allez nous proposer tout à l'heure, la question 14 aussi, c'est un petit peu la même idée. C'est la prise en charge des frais de promotion pour le Palais des Congrès par un nouvel agent ou une nouvelle structure. C'est la question 14, hein, compte rendu d'audition du maire, prise en charge des frais
liés. Non, c'est pas la question 14.
La décision 14.
Pardon. Ah, d'accord.
La décision 14 dans votre compte rendu. Là, c'est pareil. Pour la promotion du Palais des Congrès, Donc, c'est une
nouvelle emploi regroupée au sein de cette association. C'est ce que je vous explique.
Donc, cette décision 14 rentrerait dans cette délibération-là. C'est quelqu'un qui va être...
Non. Là, c'est la directrice du Palais des Congrès dont vous parlez. Là, je vous parle d'un outil de promotion. D'accord ?
Voilà. Et alors, cette décision 14, c'est pareil. Pourquoi
l'OT ? Non, c'est pas pareil. C'est la direction.
L'OT ne peut pas faire la promotion du Palais des Congrès aussi.
Mais non, parce que l'outil est totalement indépendant de l'Office du Tourisme. On ne peut pas tout mélanger dans l'Office du Tourisme. C'est pas une auberge espagnole, l'Office du Tourisme. Ça a un objectif bien particulier sur les 20 communes de l'agglo. Voilà. Bien, d'autres remarques ? Sinon, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté. Madame Antoine, pardon. La question suivante.
Merci, monsieur le maire. Donc il s'agit alors d'accepter l'adhésion du Château Laurent au réseau des sites d'exception en Languedoc. En effet, l'association des sites d'exception en Languedoc, créée en 2008, a pour vocation de faire découvrir aux visiteurs de notre région des sites incontournables de l'Hérault, du Gard, du Sud-Aveyron et de la Lozère. Aujourd'hui, 30 sites naturels, culturels et patrimoniaux prestigieux, ainsi que 10 partenaires incontournables tels que des domaines viticoles et des artisans d'exception, en constituent le réseau. Le Château Laurent doit s'inscrire dans la liste de ces sites incontournables pour accroître son rayonnement et son attrait touristique, tout en bénéficiant des services de promotion et de communication du SEL. Alors, il est donc proposé au Conseil municipal d'inscrire le Château Laurent en tant que membre de l'association des sites d'exception en Languedoc et d'accepter le montant de l'adhésion pour l'année 2023 qui s'élève à 1 600 euros.
Merci, voilà. Madame Antoine. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Marion Mertens pour les deux questions qui a trait au personnel de la ville.
C'est l'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique.
Donc, parlez bien dans le micro, Madame Mertens, sinon on ne vous entend point.
Nous avions une convention qui a pris fin le 31 décembre avec le centre de gestion. Et donc, afin de répondre aux nouveaux enjeux réglementaires liés au suivi des agents en santé au travail, le centre de gestion a décidé d'accroître son offre et de faire évoluer ses tarifs. Il est donc proposé à la ville d'adhérer à une nouvelle convention qui prend effet au 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans, tacitement par période de 3 ans.
Merci. Des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Le tableau des emplois ?
Voilà, c'est l'ajustement.
C'est l'ajustement, réussite à concours et départ à la retraite. Voilà. Merci. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Les questions diverses, y a-t-il... compte rendu, pardon, des décisions du maire, y a-t-il des questions ? Non. Mis à part celle que vous avez posée, M. Voilà. Nadal, à laquelle on a déjà répondu.
Non, mais c'est une autre.
D'accord.
C'est la décision 44, c'était au sujet du marché pour l'impression du journal municipal.
Oui.
Donc, juste, c'était pour savoir si dans... donc là, c'est juste, je suppose que c'est juste le délégataire, enfin, c'est juste le...
L'attributaire.
Voilà, l'attributaire, ouais. On ne parle pas encore de coûts, ou déjà, à ce niveau-là, on a, y a une proposition de coûts, de montant du marché.
Je ne sais pas. Oui, prenez le micro, monsieur DRGS, parce que là, moi, là, j'ai pas épluché.
Effectivement, c'est un marché public, donc une attribution suite à la consultation et avec des éléments qui nous ont été donnés par rapport sur des coûts initiaux par rapport à un BPU qui nous est fourni. Donc l'attribution s'est faite dans ce sens-là.
Et le coût, on le connaît ?
Le coût, il est nécessairement en fonction du... Là, c'est le coût du papier à la page et en fonction de la publication et du type de publication. Vous pouvez avoir des journaux municipaux à 16 pages, 18 pages ou 20 ou 24 pages. Donc le coût variera en fonction
de la
pagination.
D'accord. Voilà. Et une dernière question, puisque on est dans ce marché. Est-ce qu'on ne peut pas aussi proposer, vu le produit qui est fait, de le proposer sur du papier peut-être plus recyclé ou des choses comme ça. Parce que j'ai essayé de voir si le papier qui était utilisé...
Et ça ne vous plaît pas, M. Nadal. Si, c'est votre droit. C'est mais nous, ça nous plaît. Voilà, ça nous plaît comme ça.
Ah non, mais je n'ai pas dit que c'était laid. C'est très beau.
Oui,
simplement,
mais
est-ce que la même chose...
Je ne vais pas discuter avec vous
du
grammage du papier maintenant.
Sur le papier, par exemple. Voilà.
Voilà, mais
c'est pas possible.
Tout est possible, M. Nadal, mais c'est notre choix.
C'est votre choix.
Merci et bonsoir à tous.